Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on s'intéresse aux dérives, aux limites du développement, de l'hégémonie, même de l'éducation positive. C'est en tout cas l'avis de notre invité. Nous sommes ce matin avec Didier Pleu, psychologue, clinicien, psychothérapeute et auteur du livre « L'éducation bienveillante, ça suffit » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Alors Didier Pleu, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir revenir à une éducation plus traditionnelle et punitive ou c'est pas vraiment la solution non plus ?
Non, c'est pas la solution. Si on fait le mouvement de bascule inverse et se retourne aux blouses grises, c'est pas très futé. Non, est-ce qu'on peut tenir compte des évolutions de la psychologie de l'enfant qu'on connaît, tout en disant, par contre, dans le temps, ce qui était bon, c'était l'autorité verticale familiale, sans que ce soit le pater familias. Est-ce qu'on peut dire que de temps en temps, les parents ont le droit de dire pas de petite histoire ce soir parce que je suis fatigué, excuse-moi, etc. Mais pas forcément file dans ta chambre, qui peut être un aveu d'impuissance. Hein, c'est quand on est allé trop loin. La vraie autorité, c'est aussi ce que savait faire, je me souviens, je parle beaucoup de mon enfance dans le bouquin, c'est ce que savait faire mon instituteur, quoi. Il était très sympa, il valorisait, gratifié, mais de temps en temps, quand on faisait une petite bêtise, on se tapait sans ligne, quoi, c'est tout. Est-ce qu'on peut remettre ça par des sanctions émotionnelles bêtes, mais des sanctions qui sont proportionnées quand un enfant fait un peu des petites bêtises, quoi, tout simplement. Et alors que c'est le mot qui est complètement banni, la sanction, non. Donc, bienveillance, ils ont un code familial sans sanction. Trouvez-moi un code de la route sans sanction, c'est pas très futé. Quand même.
Lui faire remplir le lave-vaisselle, c'est pas une grosse punition, on est d'accord ?
Ah non, ça c'est pas une punition, c'est une exigence en amont, c'est ce que je défends, c'est ça. La tolérance aux frustrations, c'est d'apprendre l'effort parce que on va cueillir des fraises et puis les fraises, on les offrira à la grand-mère, mais d'abord, il faut cueillir les fraises. J'ai pas envie, on s'en fout, on le fait.
C'est tout. L'une des pionnières, évidemment, en matière d'éducation positive, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Françoise Dolto qui disait donc que l'enfant est une personne et vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est quoi l'enfant alors ?
L'enfant est un être humain en devenir.
Et
quand on dit personne,
ça
veut dire qu'il y a un soupçon d'horizontalité. C'est comme c'est ce qu'ils font. De toute façon, j'ai vu des mamans et des papas parler à un enfant de 4 ans pour expliquer que sa colère exprimait un dégoût de l'autorité castrante de son père. Je sais pas quoi. Non, faut arrêter. Non, ils comprennent pas. Hein, 5 ans, ils comprennent pas grand chose. Mais c'est ça ce soupçon qu'il y a. C'est tout le temps de dire c'est une personne. Donc si c'est une personne, faut le laisser autonome.
Oui.
Ah, il va s'accommoder, il va découvrir tout de suite la prise de courant tout seul, etc. Non, il ne découvre rien tout seul. Le parent, c'est celui qui connaît la réalité, donc je vais t'apprendre la réalité. Donc ça veut dire que je suis obligé d'accepter une autorité au-dessus de moi, ce dont ne voulait pas Françoise Dolto, surtout pas en 68.
Vous parlez d'autonomie, justement, on peut quand même laisser faire son enfant quand il veut s'habiller tout seul, manger quand il veut, ou non, habiller quand même, non ? S'il décide...
Julia, l'enfant, il peut s'habiller tout seul, c'est plutôt finose, parce que on n'a pas que ça à faire le matin. Ouais. Mais de lui dire qu'il peut choisir ses vêtements tout seul, eh ben vous verrez, la petite fille, elle veut du rose, elle veut pas aller en classe avec son truc. L'ado, il veut surtout avoir un anorak quand il fait 40 degrés dehors, mais il veut être en t-shirt quand il fait moins 15. Non, c'est le parent qui peut décider de ces choses-là.
Bon, d'accord.
Vous avez appuyé sur un bouton.
Vous dites qu'il faut apprendre à nos enfants donc la frustration, évidemment, qui peut avoir disparu avec cette éducation bienveillante. Pourquoi c'est si important ? Donnez-nous, je ne sais pas, des cas de doses de frustration qui sont correctes, on va dire. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais c'est quoi la bonne frustration pour un enfant ? Un exemple.
La bonne frustration, c'est par exemple, c'est de refuser qu'un enfant... quand il demande quelque chose, de céder tout de suite à l'immédiateté. Parce que l'enfant, il est branché, vous savez, on a le striatum dans la tête, on est tous branchés pour le principe de plaisir. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui, dans nos zones reptiliennes, dit de temps en temps, toi avoir faim, mais toi pas manger tout de suite, ça va être très dur pour l'enfant de se dire, attendez, moralement, j'ai l'impression que mon alimentation... Non, ils ont besoin d'apprendre. Et c'est ça, la frustration, c'est pas castrer, c'est pas... apprendre.
Je vous adore, j'ai l'impression que je fais tout mal, mais en même temps,
ça me rassure beaucoup. Non, l'enfant est modifiable, donc petit coup de fil et je vous donne 2-3 pistes.
C'est super. Justement, c'est quoi le risque si on laisse trop de liberté, pas assez de limites ? Ça devient quoi ? Des enfants rois, des enfants tyrans, comme vous l'avez écrit ?
Oui, ça bascule. C'est pas simplement l'enfant gâté, l'enfant roi trop centré sur lui-même, mais ensuite il prend le pouvoir. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider d'aller 4 fois aux zoos dans le mois, qui va décider de la série, c'est lui qui va décider de son alimentation, c'est lui qui décide de ses copains. Tyrannie, c'est pas que c'est un petit fasciste, c'est il a usurpé le pouvoir parental, tout simplement.
Et puis après, ça
devient un adulte roi, après un adulte tyran.
Alors qu'est-ce que ça devient, ces enfants-là ?
Des Poutines, des Carlos Ghosn, des...
Mais il va y en avoir beaucoup, parce que vous dites que ça fait 50 ans là, qu'on les forme comme ça, nos enfants. Enfin, qu'on les éduque de cette façon-là.
C'est un petit lien avec ceux dont on se plaint en ce moment, qui sont durs.
Comment on les repère, les adultes dans l'entreprise, là, qui ont été éduqués
de cette
façon-là ?
Non, je n'ai pas trop regardé, mais je vais voir tout à l'heure. Non, mais... On est tous tombés dans le panneau, parce que c'était séduisant comme théorie, mais c'est vrai qu'on voit que c'est très dur. Les enseignants n'arrêtent pas de me dire qu'il y a des enfants de plus en plus difficiles, mais ils sont vulnérables, les enfants, ils sont malheureux.
Mais c'est justement, ça crée quoi en eux, au fond ? Alors certes, ce sont des tyrans, mais ils ont des carences affectives ? C'est quoi le problème ?
Alors justement, hypothèse classique en psycho, je vais me faire taper sur les doigts, c'est la carence affective. Si votre enfant a eu un attachement insécure, il est foutu, donc il faut l'aimer, plus d'amour, etc. Moi, je parle de carence éducative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté amour, mais frustration. C'est-à-dire, est-ce que tu fais des choses des fois que tu n'as pas envie de faire ? Est-ce que des fois tu te décentres ? Est-ce que des fois tu vas apprendre l'empathie, non pas nous dire que non, l'empathie est naturelle chez les bienveillants. Mmh. L'empathie pas naturelle, elle est naturelle chez les anxieux qu'on la trouille de tout. Mais chez un intrépide, si vous avez un cheval fougueux chez vous, vous allez voir s'il est empathique à la crèche. Il pique le nounours du voisin.
Lui, ouais, hein. Il mord.
Mais voilà, il mord.
Alors, l'autorité, évidemment, c'est au centre de ce dont on parle ce matin, mais c'est un mot qui peut faire peur aujourd'hui, justement, au milieu de tous ces parents bienveillants. Mais pour vous, donc, évidemment, elle est nécessaire, l'autorité. Quelle est votre vision de l'autorité ? C'est quoi l'autorité dans une éducation qui serait justement à mi-chemin entre la bienveillance et puis l'éducation traditionnelle, on va dire,
Truc de parents, l'autorité, c'est, je me souviens que j'allais à la piscine très souvent avec mes enfants, ce que faisait jamais mon père. J'ai dû faire un truc avec mon père une fois en 20 ans. Bon, on partage, on est bienveillant, on rigole. Moi, je faisais le marsouin dans la piscine, etc. Par contre, c'est moi qui disais, on quitte le bassin. C'est moi qui leur demandais de nettoyer les petits maillots de bain parce qu'à cause du chlore, etc.
Ils le faisaient,
bien sûr. Ils ne disaient pas, merci, tu m'enseignes la frustration. J'étais l'antiquineur.
Ils doivent être grands, vos enfants. Maintenant, vous avez le temps de venir chez moi, peut-être, pour expliquer ça
au mien. Non, je dis, lisez le bouquin, vous allez voir. C'est beaucoup plus facile que ça, l'éducation rationnelle. Ah, oui. C'est plus facile qu'on le croit. Mais bon.
C'est du bon sens, en fait. Hein.
Oui, mais quand on veut avoir du bon sens, faut pas se laisser séduire par ceux qui ont trop de sens.
Ouais, c'est clair. Merci Didier. Vous ne bougez pas. On va continuer à décortiquer les limites de l'éducation dite bienveillante. Et comment faire avec nos adolescents ? Ça, c'est une bonne question. On va en reparler dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Alors, quelle est la bonne méthode pour éduquer nos enfants ? Êtes-vous adepte de l'éducation positive ou alors avez-vous une façon de faire plus traditionnelle ? On fait le point sur ce qui est bon ou moins bon pour nos enfants grâce au psychologue clinicien Didier Pleu. Je rappelle que vous êtes aussi docteur en psychologie du développement et psychothérapeute. Alors, Didier Pleu, certains parents n'aiment pas se sentir inconfortables face aux émotions négatives de leur enfant. Comment on fait pour gérer ce type de situation justement sans aller dans les travers de l'éducation positive. Je vous dis typiquement la crise au supermarché. Maman, je veux ça. Comment je la gère sans non plus lui mettre une grosse fessée en plein milieu du supermarché ?
Si crise au supermarché, c'est qu'on a raté les premières marches avant. Hein.
Je lui achète tout ce qu'elle demande en vrai. Hein. Au moins, c'est réglé, elle ne pleure plus.
N'essayez pas de faire l'éducation au supermarché. C'est comme si vous demandiez à un gourmand de pas bouffer les pâtisseries. Bon, c'est trop tard. Donc, il faut reprendre. Mais pourquoi mon enfant pète les plombs ? Parce qu'il y a plein de jouets, plein de trucs qui le stimulent. C'est sans doute qu'à la maison, je ne l'ai pas fait exprès, mais. Peut-être que j'ai cédé sur « tu goûtes pas les haricots, mais on va te faire quand même tout de suite un truc sympa que tu aimes ». C'est toutes ces petites choses-là qui sont à reprendre au niveau du bon sens. Quoi.
À 5 ans, c'est trop tard ?
Parce que même à l'adolescence, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard.
Un quart d'heure avant le dîner, des fois, elle me dit « je peux prendre un Kinder ?» Je fais « non, on mange dans un quart d'heure ». Et puis je dis « bon, bah, vas-y, prends le Kinder ».
Mais ça va pas, mais
non.
Je sais.
Non.
Mais c'est pas trop tard. À 5 ans, on peut encore revenir en arrière.
Moi, j'ai une question, pourquoi vous lui dites oui ?
Mais juste pour plus l'entendre, vous voyez, je suis en train de préparer à manger, j'ai pas le temps de prendre un quart d'heure pour me mettre à sa portée et lui expliquer pourquoi elle doit pas manger le Kinder.
On a tous été comme ça quand on sort du boulot, qu'on est excédé, on a tous dit des oui, il fallait pas dire, on est d'accord.
C'est souvent en fin de journée après le boulot, vous voyez.
Si on est persuadé que notre enfant, quand il est frustré, il est pas déprimé. Moi, je me souviens de ma petite dernière, quand elle avait son histoire de solfège le soir, elle arrivait avec des grands yeux, elle pleurait, quoi, en gros. Ouais. Et puis, elle déprime, quoi, elle est suicidaire ou quoi ? Heureusement que ma femme me disait « Sarah Bernard !» Ah, oui, mince, elle est en train de faire son cinéma pour me montrer. Elle n'est pas en dépression, elle était frustrée. Beaucoup de parents croient que l'enfant, quand il crise, quand il est en colère, quand il se roule, il est malheureux. Alors, si en plus, il y a des psys bienveillants qui vous disent « Attention, c'est un sens !» S'il est en colère, c'est qu'il y a quelque chose dans la famille où il n'est pas dit, on est foutu, quoi.
Alors qu'en fait, quoi, il est juste frustré. Mais par exemple, un ado qui est en colère contre la terre entière et notamment ses parents, on en fait quoi ? On fait de la bienveillance ou pas ?
Surtout pas, mais c'est vrai que... c'est dur la période d'adolescence, pubertaire, tout le tralala, ils pensent un peu plus fort, tout ça. Bon, c'est difficile. Mais quand on dit qu'il y a une crise d'adolescence, c'est encore un concept bien de chez nous, le complexe du homard d'Oltoyen, etc. Non, les psys disent, détachez-le, plus d'autonomie. Moi, je dis, moins d'autonomie, plus adulte significatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il expérimente, mais il faut que les adultes soient présents, justement, pour dire à l'ado, dis donc, t'arrêtes un petit peu. Mmh. Et là, j'entendais des conseils bienveillants, c'est alors, s'il vous dit, n'entrez pas dans sa chambre, il faut respecter son désir. Mais j'ai le droit de rentrer dans la chambre de chez moi, c'est mon fils.
Mais je tape à la porte.
Non, quand même.
Ah bah oui,
non,
mais d'accord.
Non, mais tous ces interdits qui sont autour, attention, ne brusquez pas, le truc, il est dans une période de crise. Et bien maintenant, il nous explique avec le point Godwin des sciences, là, que le cortex frontal n'étant pas assez fermé, le pauvre ado, c'est pas de sa faute, il a besoin de bruit et de violence et d'insultes. Mais tous les ados ne sont pas insultants et malveillants, non ?
Est-ce qu'il n'y a pas des enfants, quand même, des enfants peut-être un peu particuliers, oui, pour lesquels l'éducation positive, elle est quand même, enfin, je ne sais pas, elle peut faire ses preuves. Je pense aux enfants qui manquent de confiance en eux.
Tout à fait, c'est ce que je dis aussi, je le reconnais dans mon bouquin. L'enfant qui a un tempérament plutôt anxieux, plutôt fébrile, plutôt hypersensitif, oui, ça fait du bien d'avoir des gens qui vont le gonfler un peu à l'hélium. Qui vont
le renforcer.
Oui, mais les deux tiers de nos enfants, en ce moment, ont plutôt un ADN je fais ce que je veux, quoi. Donc faire attention. Mais pour les enfants, oui, qui ont un manque de confiance en eux, oui, je suis d'accord.
On a beaucoup parlé du rôle de parents, mais l'école aussi participe, selon vous, aux dérives de l'éducation positive. On encourage beaucoup les élèves, on essaie de ne pas les braquer, mais pour vous, il est important de leur dire les choses, même quand elles sont négatives.
Bien, oui, sinon ça n'a pas de valeur. Si on leur dit tout le temps que tout est bien, c'est quand on dit qu'il ne faut pas employer le crayon rouge pour une dictée, etc. Quand je récupérais des enfants en bas âge dans mes consultations, ce que je consulte encore, quand je récupérais des ados, ils adoraient qu'on fasse des graphiques, que je leur dise « t'es à combien ?» Mais on faisait la semaine suivante « bah, j'ai grimpé ». Je ne leur disais pas que c'était excellent. Mm-hmm. Quand un petit m'amenait un dessin, une fois une maman m'amène un dessin, et je fais la gueule en regardant le dessin, « il n'est pas beau le dessin de ma fifille ?»
Il n'est pas terrible.
Non. Tout un cinéma, donc après, elle va dans la salle d'attente, j'ai dit à la petite, tu me refais un vrai beau dessin. Elle tirait la langue, elle m'a fait un super dessin, et celui-là, il est beau. Voilà.
Ah, elle avait fait quelques efforts, donc vous n'allez pas encourager la médiocrité, quoi, c'est ça.
Mais oui,
c'est ça. Bon, il y a quelque chose de bon, quand même, avec l'éducation positive. Je ne sais pas, il y a quand même un climat sécurisant, vous l'avez dit, pour certains enfants particuliers, ça peut aider. On les encourage, ça, c'est bon pour eux, quand même, cette partie-là de l'éducation bienveillante.
Oui, mais ça ne suffit pas. Si on est tout le temps dans le positif, c'est un monde de bisounours, quoi. La réalité, elle est dure. Surtout à une époque où c'est 10 fois plus dur. Il faut se frustrer pour l'environnement, il faudra accepter les frustrations du couple, parce que c'est un peu plus open qu'à mon époque. Il faudra accepter qu'il y a des patrons qui sont moins sympas. Non. Et l'économique est difficile. Donc, on les rend très vulnérables dans un contexte où on a besoin d'être plus tolérants aux frustrations. C'est quand même paradoxal, non ?
Oui, c'est vrai.
Didier Pleu, pour résumer, vous êtes donc pour une éducation rationnelle plutôt que bienveillante. En quoi consiste l'éducation rationnelle, si on doit vraiment la définir pour conclure ?
L'acceptation de la réalité. Si je prends juste un exemple, nous, on ne travaille pas sur l'estime de soi, valorisation du moi, on travaille sur l'acceptation de soi. Tu es formidable dans ce que tu fais de bien, mais tu peux aussi progresser dans ce que tu as comme déficit. On dit les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est conflictuel et ce n'est pas bienveillant tout le temps. Mais c'est l'acceptation.
Allez, on est entre les deux finalement et on est beaucoup plus rationnel. On l'a compris. Merci beaucoup Didier Pleu d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. Et pour en savoir plus sur ce sujet, je rappelle qu'il y a votre livre qui est déjà dans mon sac à main. L'éducation bienveillante, ça suffit, paru chez Odile Jacob. Merci encore. On va changer de sujet, Julia.
Et oui, à suivre, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Muriel Jourdan du magazine Avantage va partager avec nous tous ses bons plans bricolage et surtout pas cher. Et puis après ça, on va vous mettre en appétit grâce à la recette du jour de Perla Servan-Schreiber. Des cocktails au chocolat, ce sera parfait pour ce week-end de Pâques. Donc je vous le conseille, restez bien avec nous sur Europe 1.